Il a plu. J'ai senti que quelqu'un devait le dire. Exercice, l'aurore de la parole. Du livre d'Isaïe. Quiconque a marché dans les ténèbres sans voir aucune lueur, qu'il se confie dans le nom du Seigneur, qu'il s'appuie sur son Dieu. Quand je viens à Chalet, j'ai les oreilles qui sifflent, tellement le silence est parfait. Mais j'ai le cœur tout pétri de la parole de Dieu. Par exemple, hier, lorsque j'ai entendu le psaume 108, mes genoux se dérobent, je l'ai vécu dans ma chair. Donc le silence de Chalet. Ma génération, nous sommes aussi plongés dans un silence, mais bien différent. C'est purement et simplement l'absence du Verbe dans nos vies, l'absence de Christ. Le mot « absence » est encore imparfait. Peut-on dire que la lumière est absente de la vie d'un aveugle de naissance? Cela ne lui manque pas, et ce n'est pas en tant que tel une absence, puisqu'il ne le connaît pas. Nos ténèbres de la parole, notre silence, c'est la ténèbre de toute parole. Parole de vie, promesse, parole donnée, parole reçue. Ça ne parle pas, et pourtant ce n'est pas le silence de Chalet. Pour toutes les générations précédentes, qui ont baigné de près ou de loin dans le christianisme, il y a, je crois, cette parole entendue, au moins une fois. Ils ne peuvent être l'aveugle de naissance, et s'ils deviennent un jour aveugles, de plein gré ou par hasard, ils gardent toujours le souvenir de la lumière. Qu'est-ce que ce silence de la parole dont je veux vous parler? Je prends une image. C'est l'étendue infinie d'une mer huileuse sur laquelle on fait la planche par temps calme. Au contraire, la parole de Dieu, ce n'est ni un radeau, ni même une boussole, ni une île sur laquelle se réfugier. La parole de Dieu, c'est cette invitation, plonge et respire. Comme dans certains de nos rêves, alors, ça m'arrive souvent, après avoir trop longtemps tenté de retenir sa respiration sous l'eau, on inspire tout d'un coup et on se rend compte qu'on peut respirer sous l'eau. Alors cela n'efface pas les tempêtes. Les bêtes de la mer sont aussi malmenées par les vagues, mais l'on n'est plus bloqué entre ciel et mer, presque immobile, en équilibre. On plonge et on inspire. Dans ce silence de la parole, que faire? Pour ceux qui y sont, impossible de revenir à une source. On peut s'accrocher à toutes sortes de rondins, à des radeaux de fortune, ou même à de solides et fiers navires qui parcourent la mer, mais tout cela reste temporaire et éloigné de cette vérité, on peut respirer sous l'eau. Alors il faudrait plutôt se demander, que peut-on faire, nous, chrétiens, pour porter et transmettre cette parole? Je fais appel à un théologien qui s'appelle Paul Tillich. Je vous le cite. L'homme ne peut comprendre une réponse à une question qu'il n'a pas posée. C'est simple et limpide, mais moi, ça m'a transformé. L'homme ne peut comprendre une réponse à une question qu'il n'a pas posée. C'est, soit dit en passant, un principe de grande conséquence pour l'éducation religieuse. Il percevrait une telle réponse comme extravagante, comme une suite incompréhensible de mots, comme le sont tant de prédications. Mais il n'y verrait pas une expérience de révélation. La question que pose l'homme, c'est l'homme lui-même. Il interroge du fond de l'abîme, et cet abîme est lui-même. Au cœur de ce silence de la parole, du fond de notre abîme, je crois qu'aujourd'hui, on ne se pose plus forcément la question de Dieu. L'Église apporte une multitude de réponses, de très bonnes réponses, mais à beaucoup de questions qu'on ne se pose plus désormais. Notre Église, en cela, ne doit pas transformer ses réponses, cela ne lui appartient pas, mais bien plutôt adapter son oreille aux questions provenant de notre silence, de nos ténèbres. Je prends un exemple, comme chaque soir. À la chapelle de l'Hôtel Dieu de Lyon, que je garde tous les dimanches, une jeune femme non chrétienne de mon âge est venue me demander un jour, avec hésitation, mais avec courage, ce que je ressens quand je viens ici, le ressentez-vous, vous aussi? Lorsque j'ai rapporté cette question dans mon couvent, certains frères s'en sont gentiment moqués. L'idée sous-jacente était la suivante. Votre génération, obsédée par ses propres sensations et expériences, centrée sur le ressenti corporel, pose des questions subjectives et attend des réponses subjectives. Alors, ils n'ont pas totalement tort, mais ils passent à côté de cette nouvelle question, peu conventionnelle. S'il fallait faire une comparaison, imaginons un aveugle de naissance, sortant rarement dehors, et qui vous demande tout à coup « Ressentez-vous, vous aussi, cette chaleur lorsque vous sortez dehors, sur votre peau ?» Et vous, vous riez en votre fort interne, vous disant « Quel idiot, il ne sait pas que c'est le soleil !» Aujourd'hui, je vous avais invité à lire « La guérison de l'aveugle-né ». Celui-ci parle à son entourage de Jésus qui lui a mis de la boue sur les yeux. Et la réaction des gens, la réaction des pharisiens, c'est de dire « Où est-il ?» Et l'aveugle guéri répond « Je n'en sais rien. » Il y a là tout ce que je vois de ma génération, de mon propre chemin aussi, où on commence à voir et où l'on ne sait où trouver celui qui nous a donné la vue. Alors, mes sœurs, frères et sœurs, tout ce que nous avons à faire, je crois, c'est susciter la question, annoncer son nom, dire où le trouver. Et je crois d'ailleurs que votre vie ici suscite d'elle-même cette question, annonce son nom et nous montre où le trouver. Tout cela avec le même zèle que notre Père Saint Dominique. Je vous cite le Totum. Saint Dominique cherchait avec tant de zèle le salut des âmes que lui-même, une fois faite l'organisation des frères, avait projeté d'aller chez les païens et de mourir pour la foi. Et il se laissa pousser même la barbe en prévision. Alors je ne vous invite pas à vous laisser pousser la barbe, sauf peut-être le frère Maxime, mais mesurons ce que cela veut dire. Dominique était prêt à s'adapter, à prendre la barbe des cumans, à manifester sur son visage même son élan missionnaire, sur son front le nom de Dieu, et permettre alors la fin du silence, l'aurore de la parole.